Bienvenue dans l'émission Urbaflore. Urbaflore, l'émission mensuelle du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui nous est présentée tous les mois par Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa.
Avec un invité aujourd'hui, puisqu'on va parler végétal local.
Oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai demandé à Damien Prouvandier, qui est un collègue basé à Bagnères-de-Bigorre, de nous parler de la marque végétale locale. Donc, Damien est animateur. Je te laisse poursuivre.
Oui, animateur. Donc, je travaille en tant qu'animateur national de la marque collective végétale locale. Donc, je suis basé au Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées, mais mes fonctions, en fait, sont celles d'animateur pour le réseau des conservatoires botaniques nationaux de cette marque collective dont on va parler aujourd'hui.
La question qu'on peut se poser, du coup, Damien, c'est quoi végétal local? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire, à quoi ça sert, les personnes qui sont impliquées là-dedans
voilà. Alors, végétal local, c'est donc une marque collective qui a été créée en 2015, par différents réseaux, conservatoires botaniques nationaux, AFAC Agroforesterie, Plantes et Cités, une marque collective de l'Office français de la biodiversité qui sert en fait à qualifier des végétaux qui soient vraiment d'origine locale, indigène, on va en reparler, mais qui servent en fait à des projets de restauration de la biodiversité.
Et elle a vu le jour quand, cette marque ? Ça fait longtemps ?
Donc 2015, la date de lancement, et ensuite il y a eu 3 années de travail avant avec des scientifiques et tout un réseau d'acteurs très large, des comités techniques, on a impliqué des producteurs, on a impliqué des utilisateurs qui sont toujours présents dans l'organisation de la marque, dans le cadre du comité de gestion de marque de végétal local.
On voit que c'est très cadré. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine, de quoi c'est né en fait ?
Alors, le constat, pourquoi on a créé une marque, c'est que quand il s'agit de restaurer des écosystèmes, de renaturer des espaces, les acteurs, les conseillers qui vont recommander des végétaux veulent planter des végétaux qui soient adaptés au site, qui soient adaptés aux insectes et aux différents besoins d'un écosystème. Et donc, ce qui était recommandé, ce sont des végétaux qui sont des végétaux locaux, indigènes, issus des milieux naturels. Et avant l'existence de la marque, en fait, on n'avait pas de traçabilité. On pouvait les acteurs qui commandaient des végétaux de telle espèce, par exemple. C'est pas
l'Achillée millefeuille.
L'Achillée millefeuille. Parlons de l'Achillée millefeuille, une petite herbacée des prairies. Eh bien, l'Achillée millefeuille qu'on allait commander à un semencier, on n'avait pas du tout d'origine, donc il pouvait très bien venir d'Europe de l'Est, voire d'Australie.
Oui, il y a des espèces qu'on trouve à travers le monde et qui sont la même espèce, mais qui ont finalement peut-être une génétique différente.
C'est ça, et comme le marché des végétaux s'est mondialisé au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, eh bien, on n'avait plus du tout d'origine locale, et donc la question des adaptations locales des végétaux n'était pas du tout connue ni respectée. Donc, on pouvait prescrire de l'Achillée millefeuille, mais on ne savait pas du tout d'où il venait. Donc, tous les acteurs se sont réunis autour du fait de se dire on a besoin d'un signe de qualité, et donc c'est d'où l'idée de la marque de créer végétal local. Ça sert dans différentes situations. On a parlé de renaturer, de créer des écosystèmes. Il y a différentes situations où on a besoin de faire ça. Soit des écosystèmes ont été détruits, par exemple lors d'un chantier. Un chantier, ça peut être une carrière par exemple, une carrière qu'il faut restaurer parce que la carrière a arrêté son exploitation. Ou un chantier d'aménagement type voie ferrée ou route par exemple, dans lequel des milieux sont perturbés, détruits, et il faut les restaurer. Et puis, dans le milieu agricole aussi, il y a tout un tas de mesures de replantation de haies. Il y a beaucoup d'acteurs dans la région, Arbres et Paysages, c'est un réseau, la FAC Occitanie par exemple, qui accompagne les agriculteurs pour replanter des haies ou pour ressemer des prairies. Donc tout ça, ce sont des situations où on a besoin de plantes locales pour restaurer ces écosystèmes. Et puis également des usages plus dans l'aménagement paysager, la renaturation des villes, voire des jardins, c'est aussi des usages potentiels de végétal local.
Oui, il y a berges de cours d'eau également pour stabiliser. Je repensais aussi à l'origine, parce que moi je suis arrivé au conservatoire, j'ai travaillé sur ce programme-là, ça s'appelait pas encore Végétal Local, ça s'appelait Pierre et Graines de Néou, donc ça se passait dans les Pyrénées, et ça a été à l'origine finalement de la marque, l'idée étant de restaurer des pistes de ski, suite à des aménagements, pour que le sol ne dégringole pas chaque hiver, et que la neige finalement soit stable sur ces milieux-là.
C'est chouette de rappeler cette histoire du végétal local, ou en tout cas de Pierre et Graines de Néou, puisque si le Conservatoire botanique Pyrénées, Midi-Pyrénées, est à l'animation nationale de végétal local, c'est aussi parce qu'il y avait toute cette expertise technique et scientifique qui avait été développée depuis la création du Conservatoire botanique par ma collègue Sandra Malaval. Et donc cette création de marque à l'échelle des Pyrénées a inspiré finalement le ministère de l'écologie, l'Office français de la biodiversité plus tard, pour créer une marque sur ce modèle-là. Et donc aujourd'hui, Pierre et Graines de Néou, finalement, a intégré Végétal Local comme un dispositif complémentaire.
Alors Végétal Local aussi, ça se base sur un certain nombre d'éléments pour respecter le maintien d'une diversité génétique, d'une zone biogéographique. Bon, on a parlé... On pouvait avoir de l'Aquilée millefeuille à travers le monde, mais finalement, en France aussi, il y a ce respect de zones biogéographiques.
Alors oui, les zones biogéographiques, quand on a créé la marque Végétal Local, la première question qui se posait, c'est « et le local, c'est quoi ?» Et donc, pour créer cette marque, on a fait tout un travail, ça a été un travail considérable de croiser des informations sur la géologie des sols, le climat. Et en France métropolitaine, il y a 11 régions d'origine qui ont été définies. Ici, on est dans la région sud-ouest. Si on va un petit peu plus au nord, on va être dans la région massif central. Quand on passe un petit peu plus côté méditerranéen, dans l'Aude, on passe en région méditerranéenne, après Carcassonne. Et donc, ces régions biogéographiques, c'est ce qui définit le local dans Végétal Local. Et ces régions biogéographiques, ce qui est exigé pour que les espèces soient marquées, labellisées végétal local, elles doivent avoir été récoltées dans un milieu naturel, une haie ou une prairie, avec des règles ensuite sur la diversité qu'on récolte en graines, on y reviendra. Et ensuite, bien, elles sont qualifiées par exemple d'Aquilée millefeuille sud-ouest, et l'idée étant qu'elles soient réimplantées dans le sud-ouest ensuite pour être adaptées au terroir issu de... du climat, d'une très longue évolution. En fait, les plantes sont issues d'une évolution bien avant l'intervention de l'homme.
On a parlé de coévolution dans une précédente émission, donc ça fait écho. Tu parlais effectivement, je pense qu'on peut en discuter dès à présent, mais donc de zones biogéographiques. Il y a également un référentiel technique
Le référentiel technique, c'est quelque chose... Alors, on s'est inspiré de travaux qui étaient faits en Allemagne. Ils avaient pas mal d'avance. En Suisse, il y a aussi d'autres pays. En fait, c'est des choses qui se font dans d'autres pays, dans le milieu de la restauration écologique. Et quand on récolte des végétaux en milieu naturel et qu'on veut travailler sur la diversité, il faut que cette biodiversité respecte aussi la diversité génétique. On va expliquer un petit peu ce que c'est. C'est que dans Végétal Local, dans ce référentiel technique, on doit récolter en milieu naturel, on doit prendre le point GPS pour qu'on puisse ensuite aller vérifier que c'était bien un milieu naturel qui n'ait pas été planté par l'homme.
Voilà, comment on sait qu'un milieu n'a pas été pollué, entre guillemets, par des essences apportées par l'homme ?
Alors, les règles qui ont été fixées dans le référentiel technique, pour les haies, par exemple, c'est quelque chose qui est très présent dans Végétal Local, la production d'arbres et arbustes. Eh bien, la haie, elle ne doit pas avoir été plantée avant 1970. Pourquoi 1970 ? Parce qu'en fait, après le remembrement, c'est à partir de 1970 qu'il y a des campagnes de replantation qui se mettent en place. Et donc, ces campagnes de replantation, elles étaient faites avant l'existence de Végétal Local, mais avec des origines qui étaient méconnues, parfois des confusions au niveau des espèces utilisées. Comment on fait pour savoir que la haie était présente avant 1970 ? Par exemple, on va sur le géoportail de l'IGN. Ça s'appelle Remonter le temps. C'est une application en ligne qui est très sympa parce qu'on peut regarder son territoire et voir les photos aériennes des années 1950. Donc une haie présente sur son territoire, déjà souvent elle va avoir des arbres de OG, ça va être avec plusieurs strates, donc on voit que c'est une haie ancienne, et en plus on peut aller vérifier, les collecteurs de graines qui sont formés à ça, vont aller vérifier que cette haie existait dans les années 1950. Donc c'est toute une série d'indices, aussi des indices floristiques, par exemple, qui vont donner ces critères. Sur les prairies, donc milieu herbacé, c'est la date de 1990 qui a été retenue, un peu plus récente par rapport à la dynamique des herbacées, dans les milieux herbacés. Et donc, ça va être aussi dans un dialogue avec l'agriculteur, vérifier que cette prairie n'ait pas été retournée, ressemée depuis cette période-là. Et puis, des phytosociologues, des botanistes, des conservateurs botaniques aussi, ont ce regard sur la composition de la prairie, voir qu'il n'y a pas, par exemple, du régras dedans ou des espèces qui sont vraiment des espèces pas indigènes et qui ont été semées largement dans certaines prairies retournées, qu'on appelle des prairies temporaires, en fait.
Et effectivement, végétal local, c'est, on ne l'a peut-être pas précisé, mais on l'entend à travers tes propos, c'est à la fois des plantes herbacées, donc on va trouver dans des prairies, ça peut être des espèces annuelles ou vivaces, ça va être aussi des espèces arbustives. On peut donner quelques exemples, la viorne, le cornouiller,
troène,
le troène.
Ouais.
Voilà. Mmh. Et puis, c'est également des arbres. Hein, voilà. Ça peut être des chênes, autres.
Et toutes ces espèces, en fait, ce qui fait qu'elles soient éligibles à végétal local, c'est qu'elles soient indigènes. C'est cette notion d'indigénat c'est un peu un des travaux fondamentaux des conservatoires botaniques, c'est définir aussi, à partir des données relevées sur le terrain, des données anciennes, et aussi des herbiers anciens, hein, de voir finalement ces espèces qui sont présentes naturellement sur les territoires, ces espèces sauvages en tout cas, qui sont présentes naturellement dans les territoires. Dans végétal local, alors on va pas autoriser les espèces qui sont rares ou menacées parce qu'elles font l'objet d'autres mesures. Les espèces protégées, c'est encore plus spécifique parce que les espèces protégées, on n'a pas le droit de les collecter en milieu naturel. Donc ça va être plutôt la flore arbre herbacée qu'on appelle généraliste, quoi, qui est celle-ci dont on a besoin aussi pour restaurer des écosystèmes, des haies et autres.
Et alors, pour le respect de la diversité génétique, j'ai vu que la collecte devait se faire sans a priori. C'est-à-dire que, en fait, tu dois collecter aussi bien des petits plants rabougris gris que des plants superbes. Donc, on n'est pas sur... Enfin, il y a une recherche de non-sélection.
Ouais. Alors, même avant d'aller dans cette précision, je tenais... On connaît la biodiversité. La biodiversité, et encore, c'est une définition complexe. Ça va être la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes, les interactions entre espèces. Mais ce qu'on connaît moins du niveau de la biodiversité, souvent, c'est le niveau de la diversité génétique. La diversité génétique, c'est ce qui fait qu'on a tous les yeux de couleurs différentes, les cheveux, la couleur de peau. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des clones, en fait. Et dans certaines pratiques agricoles de sélection d'espèces, si on est arrivé à avoir du blé comestible, du maïs comestible, alors ça vient d'un autre continent, c'est de la sélection en fait de plantes sauvages qui petit à petit, au fur et à mesure du temps, ont été sélectionnées. Et puis en horticulture, on a aussi des pratiques qu'on appelle le bouturage. C'est pratiqué ça classiquement même par les jardiniers. Mais le bouturage en fait c'est du clonage. Et si on fait que des clones, à un moment par rapport à des changements, à des événements ou à des maladies, on a beaucoup moins de capacité de résistance parce que les clones, ils ont tous le même génome. Et donc, dans végétal local, ne pas autoriser la sélection, c'est justement se dire on favorise et on conserve la diversité génétique. Et dans végétal local, non seulement on doit récolter sans faire de tri en se disant je garde que les plus gros arbres, ce que font les forestiers par exemple. Le forestier, il veut que l'arbre pousse droit. Donc il va choisir d'aller chercher des glands sur des arbres qui poussent très droit pour faire des fûts. Bien, végétal local, on ne doit pas procéder à cette sélection. À la phase de récolte de graines, mais aussi lors de la production. C'est-à-dire que lors de la production, il ne s'agit pas de garder que ceux qui vont les plus vite, que les plus grands. Et ça, c'est contrôlé dans un système aussi d'audit. Donc il y a le référentiel technique, mais ensuite, les producteurs qui veulent rentrer dans la marque, ils candidatent. Ils présentent les espèces sur lesquelles ils veulent les faire labelliser. Et il y a un audit de terrain qui va vérifier la collecte de graines. Et puis, il y a un audit en pépinière ou chez les semenciers qui vérifie qu'il n'y a pas ces pratiques, par exemple, de tri. Et après, ce qu'on exige, c'est la traçabilité, que l'étiquette, la facture indiquent bien un numéro de lot spécifique qui nous permette de croiser toutes ces infos, de contrôler toutes ces infos.
Donc, in fine, l'utilisateur... du végétal local saura d'où vient la graine, en fait.
Il a cette garantie-là. C'est que si il achète un mélange de graines ou un plant marqué végétal local, sur l'étiquette, il y aura indiqué végétal local de la région sud-ouest. Donc, il a cette garantie-là et le système permet finalement aux acheteurs d'avoir cette garantie, quoi.
Voilà. Okay. Végétal local, dans cette émission Urbaflore, pour ce mois-ci, on va parler à quoi ça sert, pourquoi planter du végétal local, alors qu'on parlait d'Aquilée, par exemple, pourquoi celle de Montpellier ou du Chili n'irait pas aussi très bien, puisqu'on est dans le Tarn-et-Garonne, on en parle juste après la musique.
My baby, me and my gal, we have a radio to hear the sounds we love well, and then use that we ought to know. Chicken washing powder, sex and power, these fake it in that song. To our questions, they answer and give us an opinion. So me and my money, me and my girl, we bought a television to travel around the world and learn things and make our education. One little kitchen, one in the hall, one big in the granny, one on the wall, one in the garden, one in the room, one in a car, pretty soon. Chicken washing powder, sex and power, games, chocolate bars, religion, serious gossip wars, sensation, this is communication. They're walking and talking and yakking and rapping that thing. So I'm walking and talking and yakking and keep on rapping that thing. Hold it, baby, hold it, I said. Same record, same old song. Burn it, baby, throw it away. They're pushing to consumption. Kitchen, chicken, shower, brainwashing powder, games, chocolate balls, revolution. Serious gossip, cars, temptation, what a combination. They're walking and talking and yakking and rubbing that thing. Now I'm walking and talking and yakking and keep on rubbing that thing. Hold it, baby, hold it, I say. Turn off the television. Hurry back to bed, let us make our own education. One little kitchen, one in the bath, one big in the box, one in the grass, one in the doorway, one in the cell. Me and my baby, me and my gal, 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 me and my baby, me and my gal.
De retour dans cette émission Urbaflore animée comme tous les mois par Jérôme Garcia pour le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui a invité Damien Provendier, animateur technique des filières végétales locales. On parle végétal local, donc dans cette émission, petite définition de cette marque, mais alors pourquoi ?
Alors pourquoi ? Ben, c'est vraiment important de rappeler ces éléments, mais notamment pour le lien avec les insectes pollinisateurs. C'est important d'avoir cette notion-là. On parlait de la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi les interactions. Et donc, pour que les plantes soient pollinisées, il faut des insectes. Mais les insectes, ils ont coévolué avec des plantes. Il y a même des insectes qui sont adaptés à une seule espèce, très locale. Donc, si l'espèce locale disparaît, l'insecte disparaît également. On a finalement les pièces buccales des insectes qui ont évolué avec ces espèces locales. Et donc, les espèces locales de fleurs sont les plus adaptées à la pollinisation locale. Alors, ça peut être par rapport à la forme de la fleur, mais ça peut être aussi par rapport à la date à laquelle elle fleurit. Une espèce qui vient de loin, en fait, elle va être adaptée à un climat particulier, et peut-être qu'elle va fleurir avec un jour, trois semaines de retard par rapport aux besoins des insectes. On a ça dans différents travaux scientifiques qui montrent ça sur les insectes, mais aussi sur les oiseaux, avec des interactions assez complexes. D'autres arguments sur le végétal local, donc c'est l'adaptation aussi au sol, au climat, donc une meilleure reprise. Très clairement, un végétal qui a poussé dans des conditions particulières sera mieux adapté aussi pour reprendre dans ces mêmes conditions. Donc ça, c'est un élément fort. Et puis la résistance aux maladies et aux ravageurs. Introduire des espèces qui viennent de loin, même si c'est la même espèce, et encore plus si c'est des espèces exotiques, c'est aussi un risque que ces espèces-là viennent avec des ravageurs.
C'est le cas, par exemple, de la pyrale du buis.
Pyrale du buis qui a marqué nos paysages. Pierre Aldubuis, on a tracé très précisément, hein, c'est arrivé par un port sur du Rhin, en Alsace, en 2006 à peu près. Et donc du coup, y a un buis qui est arrivé de Chine. C'était la même espèce, mais elle est arrivée avec son
parasite,
avec son parasite, la pyrale. Sauf que sur notre continent et en France, on n'avait pas le, il n'y avait pas de le prédateur de ce parasite. Et donc la pyrale du buis s'est développée très fortement, dévorant tous les buis dans les jardins et les châteaux et autres, mais également dans les milieux naturels, où on a eu des phénomènes de défoliation énormes sur les causes, dans les Pyrénées, avec des impacts écologiques très forts sur les milieux naturels. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres. On pourrait citer la Calarose du Frêne, on pourrait citer sur les palmiers aussi, il y a des exemples comme ça. Donc voilà, ces questions de mondialisation du vivant et des virus, on était bien au courant même sur l'humain, ce que ça a pu faire il y a 3 ans. Donc finalement, le végétal local, c'est un principe de précaution. On a ces espèces-là localement. Pourquoi prendre le risque de mondialiser comme ça le vivant? Là, c'était aussi le sujet sur les plantes exotiques invasives, c'est que l'accélération de ces transports, de cette mondialisation du vivant, se fait. C'est une menace de plus en fait sur les écosystèmes qui sont déjà très menacés par la fragmentation des paysages et pollution et autres impacts menaces sur la biodiversité. Un dernier argument aussi, qui tient bien et qui est important aujourd'hui, c'est aussi pour soutenir l'économie locale. C'est-à-dire que végétal local, les métiers, on a pas mal de gens qui s'installent en végétal local, des pépinières, mais aussi des collecteurs de graines. Il a fallu réinventer un peu ce métier de collecteur de graines en milieu naturel. Et donc du coup, ça c'est non délocalisable. Un collecteur de graines, il va travailler sur le territoire. Et donc c'est aussi dans une logique de circuit court que végétal local vient s'inscrire. Qui a un impact sur la biodiversité, indirectement, vu que les végétaux voyagent moins. Donc d'un point de vue bilan carbone, c'est aussi bien d'avoir des végétaux qui voyagent moins.
Moi, Damien, j'entends beaucoup parler là, dans différents médias aussi, de l'utilisation de végétaux qui viennent d'Afrique du Nord ou de Méditerranée pour faire face au changement climatique. Est-ce que tu as une position là-dessus ou des remarques à partager ?
Alors, le végétal local, c'est une stratégie vis-à-vis du changement climatique de solution, qu'on appelle solution fondée sur la nature, dans l'idée, en fait, de redonner les capacités aux écosystèmes d'évoluer. On va recréer des trames vertes, on va recréer des corridors écologiques pour permettre, à long terme éventuellement, la sélection naturelle, la migration des espèces. Mais le faire avec cette biodiversité, cette diversité génétique, renforcer finalement nos écosystèmes qui ont été tant détruits par le remembrement, l'agriculture, leur redonner les capacités d'évolution.
Et l'urbanisation.
Et l'urbanisation dans Urbaflore. Cette stratégie d'aller chercher des espèces exotiques plus au sud, elle est plutôt pratiquée dans des domaines particuliers agricoles. Un vigneron, je comprends, sur des espèces très sélectionnées comme sont la vigne. Alors c'est des clones, c'est la vigne, il va chercher des cépages un peu plus au sud. Les forestiers ont tendance aussi, depuis longtemps, à aller chercher des espèces adaptées à l'usage particulier qu'est la production du bois. C'est des partis pris agricoles, mais dans économique, mais dans le milieu de la restauration de la biodiversité, on est vraiment plutôt à accompagner les processus naturels. Et donc du coup, végétal local, c'est plutôt un outil de résilience des écosystèmes. On est en train d'argumenter fortement là-dessus. C'est sûr que c'est normal, il y a des peurs, des craintes face au changement climatique, mais c'est complexe. Le climat de demain ne sera pas celui du nord de l'Afrique, ça sera un nouveau climat, avec des périodes très froides, très chaudes, pluvieuses, des sécheresses. Les modèles sont quand même complexes. Donc, redonner à la biodiversité toute sa capacité d'évoluer est une stratégie défendue dans le cadre de végétal local. Après, ce n'est peut-être pas la seule non plus, mais celle-ci, en tout cas, elle est importante à défendre.
Ouais, d'une certaine façon, il faut faire confiance à la diversité locale pour que une certaine résilience se mette en place par rapport à ce constat de changement climatique.
C'est la sélection naturelle aussi qui va se remettre en place, et cette sélection naturelle, de redonner en tout cas de la respiration aux espaces naturels pour qu'ils puissent évoluer.
Moi, j'avais une dernière question et peut-être qu'on pourra conclure du coup là-dessus. C'est quand on entend la notion de marque, ça peut faire un petit peu hérisser les cheveux avec un aspect économique, financier derrière. Est-ce que tu peux en parler ?
Ah oui, marque en fait, c'est vrai qu'on entend plus marque privée, alors que marque, c'est une marque collective qui a été déposée par un organisme public qui est l'Office français de la biodiversité. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt avec le privé, avec des producteurs. Hein, c'est vraiment... Et si c'est une marque collective, les labels n'ont pas de dépôt juridique en France. En fait, ce qui définit un label, derrière un label, c'est souvent une marque collective qui va être déposée à l'INPI. Et cette marque collective, végétale locale, en fait, c'est ce qui permet de rentrer dans le droit des marques. C'est-à-dire que les gens qui adhèrent à végétale locale doivent respecter le référentiel technique et sinon, ils sortent de cette marque collective. Donc, c'est ce qu'on appelle un label au sens des marchés publics aussi. Voilà, c'est la sémantique marque peut surprendre parce qu'on a plus l'habitude des marques privées, tandis que là, il s'agit bien d'une marque collective avec une gouvernance transparente et qui est ouverte. Et voilà les questions juridiques et de sémantique par rapport au terme de marque.
La marque dont on parlait aujourd'hui dans cette émission Urbaflore, c'est la marque végétale locale. On était avec Damien Provendier, l'animateur technique des filières végétales locales, dans cette émission Urbaflore, animée tous les mois par Jérôme Garcia pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Le mois prochain, on parlera encore de cette marque végétale locale pour savoir en Occitanie où on en est. On se retrouve le mois prochain. Damien, Jérôme, merci beaucoup.
Merci Lisa, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Cette émission Urbaflore est à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr.